Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute des programmes du Studio Tamani sur l'ensemble de nos radios partenaires, il est 8h. Monsieur Dame, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. Le Premier ministre par intérim s'est exprimé ce samedi à la tribune de l'ONU. Le colonel Abdoulaye Maïga a regretté les déclarations du secrétaire général de l'ONU sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. La MINUSMA et les femmes ont effectué la semaine dernière la toute première sortie conjointe dans la zone de Menaka, localité en proie à l'insécurité. Les populations se réjouissent de cette patrouille conjointe. Une inondation est survenue ce week-end dans les villages de Swala et Saint, dans la commune de Djéné, région de Mopti. Plus de 400 maisons se sont écroulées dans le village de Saint. Les habitants demandent de l'aide aux autorités. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Nuhum Djiré. Le Premier ministre par intérim s'est exprimé ce samedi à la tribune de l'ONU. C'était à l'occasion de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le colonel Abdoulaye Maïga a fustigé ce qu'il a qualifié d'obscurantisme de la junte française nostalgique de pratiques néocoloniales. Le chef du gouvernement malien par intérim sollicite l'implication du secrétaire général de l'ONU afin que la plainte du Mali contre la France aboutisse. Toutefois, il a réitéré la demande du gouvernement malien pour une adaptation du mandat de la MINUSMA à l'environnement dans lequel elle est déployée. Le point avec Moussa Malé Sissoko.
Le chef du gouvernement a entamé son discours avec le sujet le plus brûlant du moment, celui de l'arrestation des militaires ivoiriens au Mali. Le colonel Abdoulaye Maïga a regretté les déclarations du secrétaire général de l'ONU qui contredisaient les accusations de Bamako. Dans une interview la semaine dernière, Antonio Guterres avait laissé entendre que les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali n'étaient pas des mercenaires. « Je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique », a martelé le colonel Maïga, avant de qualifier l'affaire de bilatérale et judiciaire entre deux pays frères qui ne relèvent pas des attributions de Guterres. Abdoulaye Maïga a traité également le régime d'Emmanuel Macron de junte et accuse la France de pratiques néocoloniales. Il a dénoncé ce qu'il appelle l'obscurantisme de la junte française qui a violé l'espace aérien malien plus d'une cinquantaine de fois en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes. Le chef du gouvernement a déploré l'attitude du président en exercice de la CEDEAO, Oumaro Sissoko Ambalo, président bissau-guinéen. Selon lui, ce dernier est dans le mimétisme des Nations Unies dans le dossier des militaires ivoiriens. Enfin, le premier ministre par intérim a accusé le président nigérien Mohamed Bazoum de ne pas être nigérien et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à la manœuvre pour conserver le pouvoir pour lui seul et son clan en changeant la constitution pour obtenir un troisième mandat.
C'est un discours qui traduit les aspirations de la majorité des Maliens. C'est en tout cas ce qu'estime Ngolo Diarra. L'universitaire indique que le ton peut se durcir entre les États à un moment donné, mais il préconise l'option diplomatique comme remède aux différends. Ngolo Diarra, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Il est au micro de Moussa Malé Sissoko.
C'est un discours, ça reflète les réalités maliennes, ça épouse le problème politique contemporain de l'État du Mali. En tout cas, il faut reconnaître que l'affaire de ces 46 militaires ou mercenaires est devenue vraiment un différend qui oppose ces deux sujets originels du droit international. D'un côté, l'État du Mali, de l'autre côté, l'État ivoirien. Et il n'est pas du ressort du secrétaire général de donner ce qu'on appelle une conclusion. Oui, il arrive parfois les relations entre les États, ça peut s'échauffer, mais par le temps, voilà, les États arrivent à faire ce qu'on appelle la démolition des murs d'incompréhension. Et l'Afrique n'a pas vraiment besoin, l'enlisement n'a pas besoin encore de conflits interétatiques.
Toujours sur le même sujet, lors du sommet de l'Organisation ouest-africaine à New York, les dirigeants de la CEDEAO avaient décidé d'envoyer une mission de haut niveau ce mardi 27 septembre à Bamako pour échanger avec les autorités maliennes sur l'affaire des militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Dans une lettre confidentielle parue sur les réseaux sociaux, le ministère des Affaires étrangères du Mali note que la mission ne peut être reçue. Le département évoque des contraintes d'agenda, mais il précise sa disponibilité à accueillir la mission les 29 et 30 septembre prochains. Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. La MINUSMA et les forces armées maliennes ont effectué la semaine dernière la toute première sortie conjointe dans la zone de Menaka. Elle a conduit les deux forces au village de Imash, à une dizaine de kilomètres à nord-ouest de la ville de Menaka. Les forces onisiennes en ont profité pour apporter une assistance notamment alimentaire et médicale aux populations. Le point avec Abdoulaye Touré.
Pour la mission onisienne au Mali, cette patrouille conjointe avec les forces armées maliennes a permis de rassurer les populations. Elle a progressé au sol de Menaka à Imash. Un survol de drones du périmètre a été effectué, précise-t-elle. Au cours de cette patrouille, des vivres et des non-vivres ont été offerts aux populations. Aussi, une clinique mobile de l'équipe médicale a permis à une dizaine de patients de bénéficier de consultations médicales gratuites, ainsi que des médicaments, ajoute-t-elle. Pour les populations, cette action est arrivée à point nommé. Le chef de village de Imash, Huzaifat Aghamma, salue cette nouvelle. Pour lui, cette approche de sécurisation rassure et donne de l'espoir aux habitants face au contexte sécuritaire difficile. Notons que ces derniers jours, les populations civiles de la région ont été exposées aux violences perpétrées par les groupes armés terroristes. Selon des sources locales, cela a causé la mort de plusieurs centaines de personnes et provoquer les déplacements forcés de plusieurs milliers d'autres.
Parlons à présent des initiatives pour la promotion de la paix. La Journée internationale de la paix a été célébrée la semaine dernière au Mali. En prélude à cette journée, l'Association malienne pour les Nations unies au Mali, en collaboration avec la MINUSMA, a mené une campagne de sensibilisation sur la paix et le vivre ensemble dans les 6 communes du district de Bamako et Kati du 11 au 17 septembre passé. L'objectif est de promouvoir la paix au Mali. On fait le point avec Lichiata Tamaïga.
Selon les organisateurs, cette journée constitue une opportunité d'échange et de partage sur les nouvelles approches et alternatives pour une paix durable au Mali. Ibrahim Kalilou Tera, président de l'Association malienne pour les Nations unies au Mali.
Cette campagne noble a permis de sensibiliser sur la paix, le vivre ensemble, l'inclusion, le rôle des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits. Les jeunes qui composent près de la moitié de la population, aussi malienne que mondiale, sont tentés par l'instrumentalisation. Nous restons convaincus qu'aucun chemin ne pourrait mener à la paix et au développement sans passer par les jeunes et les femmes.
Mettre fin au racisme, bâtir la paix est le thème de cette année. Pour le chef de la MINUSMA, Elga Simwan, la paix du pays doit puiser ses racines de nos valeurs culturelles.
Cette année, le thème nous rappelle que le racisme fragilise la paix. Notre objectif commun est un Mali en paix et réconcilié. Que la recherche de la paix, gage de tout processus de développement, doit puiser ses racines dans les réalités et les valeurs culturelles du Mali. Et pour cela, il faudrait déposer les armes.
À l'occasion de cette journée, l'Association malienne pour les Nations unies a invité les autorités maliennes et ses partenaires d'impliquer les jeunes et les femmes dans la résolution de la crise.
Un sujet signé Jihad Atamaïga, coopération bilatérale. Le renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Mali et la Guinée s'intensifie davantage. À l'occasion de la célébration du 62e anniversaire d'indépendance du Mali, les colonels Goïta et Doumbouya, présidents de la Guinée, ont co-présidé le lancement du projet complexe hospitalier de 4e référence qui assurera la prise en charge des maladies du cœur, des reins et cancers et réduire de 95% les évacuations sanitaires. Issa Omar Togola.
Au cours de son séjour sur le sol malien, le président guinéen, colonel Mamadi Doumbouya, a eu un entretien avec son homologue malien, colonel Assimi Goïta, au palais de Koulouba. C'était l'occasion pour les deux hommes de passer en revue les grands axes de coopération entre la Guinée et le Mali, surtout sur le transit des marchandises maliennes à travers le port de Conakry. En outre, les présidents maliens et guinéens ont également co-présidé le lancement du projet complexe hospitalier de 4e référence qui sera basé à Bamako. Le but est de désengorger les anciennes structures et apporter un plateau technique adéquat de dernière génération aux Maliens. Il sera construit sur 40 hectares. Le coût de la réalisation s'élève à 160 milliards de francs CFA entièrement financés par le budget national. Le colonel Doumbouya a aussi assisté à la donation de 35 ambulances destinées aux structures sanitaires de Bamako et de l'intérieur du pays par l'équipe des œuvres sociales du président. Notons que le président guinéen a été élevé par le colonel Assimi Goïta à la dignité des grands croix de l'ordre national du Mali à titre étranger. Un sabre lui a aussi été décerné pour lui témoigner la gratitude du peuple malien.
Allons au centre du Mali où plus de 400 maisons écroulées et des bétails emportés est le bilan de l'inondation survenue la semaine dernière dans le village de Saint dans la commune de Djenné. Selon les autorités communales, tous les habitants de Saint sont actuellement sur les digues. Le deuxième adjoint au maire indique que la population de Saint avait alerté les autorités sur un risque d'inondation. Au même moment, le village de Swala est aussi submergé par les eaux. Le point avec Lale Tangara.
Assis dans la commune rurale de Djenné, le village entier est sous les eaux. Selon le président de la jeunesse du cercle de Djenné, Yeya Saro, le village n'est accessible que par pirogue car l'eau a atteint la hauteur 1,50 m. Il affirme que l'aide apportée à la population est insuffisante.
Aujourd'hui, toute la population est sur les digues. Actuellement, il n'y a personne dans le village, c'est complètement inondé. L'eau est jusqu'au niveau de la poitrine. Beaucoup de maisons sont tombées. On parle plus de 400 maisons qui sont vraiment tombées dans l'eau. C'est vraiment une catastrophe.
Malgré les différentes dispositions prises par les habitants et les autorités communales, le village a été submergé par les eaux, regrettent les responsables de la mairie de Djenné. Toutefois, ils disent être à pied d'œuvre pour aider les sinistrés. Abdrahaman Damele, deuxième adjoint au maire de Djenné.
De faire des diguettes. Nous avons envoyé une quantité importante de sacs et de sable pour pouvoir renforcer les diguettes. Au-delà de ça, la mairie n'étant pas les moyens, nous avons alerté les bureaux responsables au niveau régional pour que des dispositions puissent être prises afin que ces populations sinistrées puissent être prises en charge.
Le deuxième adjoint au maire ajoute que le village de Swala a été aussi inondé ce dimanche vers 3h du matin. C'est le mini pont qui alimente les casiers rizicoles de Djenné qui a été endommagé par les eaux de pluie, explique-t-il.
Sur un tout autre sujet, la Journée internationale des langues des signes a été célébrée le vendredi 23 septembre dernier. Au Mali, l'Association malienne des sourds dénonce le manque de moyens de communication pour les personnes atteintes de ce handicap. Selon ses responsables, elles ont besoin d'assistance depuis à bas âge. Cette année, le Mali commémore cette journée sous les signes de la réconciliation, de l'attente et de la cohésion sociale. Makankone, président adjoint de l'Association malienne des sourds, est joint par Hawa Berthe.
Il faut que le sourd soit à bas âge jusqu'à l'état d'adulte encadré et bien formé en langue des signes pour qu'il puisse communiquer avec les entendants. Il faut des enseignants bien placés pour maîtriser d'abord la langue des signes et pour pouvoir transmettre leur savoir aux enfants. Sans communication, les sourds sont toujours dans l'obscurité. Il faut toujours une formation continue des enseignants en langue des signes, pas l'AMASOUR. L'AMASOUR, c'est l'Association malienne des sourds. Ils ont des gens qualifiés parce qu'ils sont sourds, c'est leur langue. Il faut que l'AMASOUR aide beaucoup nos enseignants entendants à les former en langue des signes pour qu'ils puissent bien transmettre le savoir aux enfants sourds.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
L'actualité régionale en bref, commençons par Yélimané, où un jeune a été tué par des individus armés non identifiés jeudi dernier sur le tronçon Guinanourou-Consiga aux environs de 21h. Selon une source locale, la victime quittait Guinanourou pour Consiga. Pour l'instant, on ignore les raisons de cet assassinat. Allons à Koulikoro, où la deuxième édition de la soirée culturelle traditionnelle s'est tenue ce samedi dans la région. La cérémonie a été organisée par l'Association des Frères Unis du Plateau 2. L'objectif est de soutenir la refondation du Mali à travers la promotion des valeurs culturelles de Koulikoro et du Mali. L'événement a été marqué par des danses traditionnelles, des chants du terroir et du patrimoine culinaire de Koulikoro. Terminons notre tour d'horizon de l'actualité régionale par cette nouvelle où Abdoulaye Kadriba est le nouveau président de la Ligue régionale de basketball de la région de Koulikoro. Il a été élu ce week-end par consensus à l'issue d'une assemblée générale. Il dirige un bureau de 15 membres, dont 4 femmes, pour un mandat de 4 ans. Le nouveau président compte faire la promotion du basketball son cheval de bataille durant ce mandat. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était la présentation Mariam Meiga. La mise en onde est assurée par Nuhum Djiré. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en Bambara avec Aïssata Diarra. D'ici là, bon début de semaine à toutes et à tous. Le Mali, le Niger et le Tchad figurent parmi les 7 pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde. Cette information est issue du rapport national sur le climat et le développement. Le document a été publié cette semaine la semaine dernière par le groupe de la Banque mondiale pour les pays du G5 Sahel. L'organisation alerte face à des chocs liés au changement climatique si les investissements en matière d'adaptation ne sont pas lancés en urgence. Le document met aussi en avant des solutions. Le magazine Parlons de l'environnement s'intéresse à ce sujet et c'est une réalisation de Mahaman Babakunta.
Le magazine Parlons de l'environnement.
Ce nouveau rapport de la Banque mondiale montre aussi que les dégâts causés par le changement climatique peuvent être significativement réduits. Il souligne aussi que le coût de l'inaction s'avère bien plus élevé que celui de l'action. Elizar Bouradi, spécialiste principal sur la gestion des ressources naturelles.
Avec une assistance technique, ça pourra être possible de vraiment démarrer tout ce qu'il faut faire pour avoir encore mieux le financement climatique et pour mieux exploiter les possibilités de financement pour toutes les mesures d'adaptation.
Le document indique que le changement climatique renforce les cycles de pauvreté, de fragilité et de vulnérabilité dans le Sahel, explique Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.
Il est vrai, dans cet espace, à cause de l'insécurité, les déplacements des populations sont réels. On le voit au Burkina Faso, on le voit bien sûr au Mali. Mais les déplacements internes aussi, résultats du changement climatique, sont significatifs.
Avec une population qui devrait doubler au cours des 20 prochaines années pour atteindre 160 millions de personnes, les pays du Sahel doivent prioriser l'adaptation climatique, poursuit M. Diagana. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale demande aussi que la région du Sahel soit mise sur la voie d'une croissance durable et inclusive.
L'exode rural qui s'accentue, qui vide donc les campagnes et par conséquent affecte le niveau de production agricole, est souvent lié au changement climatique. Quand les pluies ne viennent pas à temps, ou si les pluies sont insuffisantes, ou si la quantité de pluie qui est attendue durant une saison de pluie tombe à l'espace de 3 ou 4 jours, ça a des effets directs sur la production agricole, sur la survie des populations. Et donc, ces populations souvent quittent les zones de production pour aller créer des bidonvilles, accroître la population urbaine sans qu'il y ait des services appropriés pour les accueillir. Donc, tout ça ont été analysés. On a des modèles économiques qu'on a essayé de bien utiliser, bien quantifier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé du financement comme une responsabilité partagée entre les gouvernants qui sont responsables du développement du pays et les partenaires.
Le document rapporte également que les émissions combinées des pays du G5 Sahel ne dépassent pas 1% des émissions globales de gaz à effet de serre. Il rappelle aussi un certain nombre d'engagements pris par les pays du G5 Sahel. Il s'agit notamment de la neutralité carbone d'ici 2050. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad ont pris l'engagement de stopper et inverser la déforestation et la dégradation des terres d'ici 2030. La directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad, Clara De Sousa, reste aussi optimiste. Elle affirme qu'il existe des réelles opportunités pour développer un Sahel résilient et sobre en carbone. C'est ce qui met fin à ce numéro de magazine Parlons de l'environnement, réalisé par Mahaman Babakunta et présenté par Draman Meiga. À la semaine prochaine pour un autre numéro.